Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Je m'appelle Daniel Moquet, je m'occupe des archives Yves Klein depuis une quarantaine d'années. Et bien évidemment, nous avons fait pas mal de chemin, pas mal d'expositions, de livres. Et ce soir, on vient vous parler du dernier, du dernier enfant qui a été fait grâce à l'auteur qui est à côté de moi, qui est Frédéric Pro, qui va vous en parler bien évidemment, parce que c'est une aventure qui nous a mené quand même... C'est une petite aventure qui a duré à peu près 18 mois, je crois, ce qui est assez long. C'est en gros une double grossesse qui a eu quelques difficultés, bien évidemment, et aussi beaucoup de joie, parce que après avoir essayé certaines voies, on est arrivé, je crois, grâce à l'idée de Frédéric, qui est venu avec la très très bonne idée de prendre Arthur Rimbaud comme personne au fil rouge qui court tout au long du livre. Et ça a permis, je crois, d'avoir une lecture différente de l'œuvre de Klein. Les livres d'art en général, et après je vais passer la parole à Frédéric, les livres d'art en général sont faits par des critiques d'art, par des gens éminents qui connaissent très très bien l'histoire de l'art, et en particulier, et ils savent parfaitement faire le bouquin avec le bouquin des autres bouquins qui travaillent avec les bouquins de ceux qui ont fait les précédents bouquins. Ce qui veut dire qu'une connerie faite en 1932 est répétée en 1944, en 1966 et en 2012. Et c'est un tout petit peu gênant parce que, évidemment, ça devient une vérité révélée. Il est bien évident que tu dis, mais je l'ai lu, donc ça existe. Et en général, on fait toujours appel, en France particulièrement, à Baudrillard, Foucault, Lacan, Bachelard et Merleau-Ponty, j'en passe et des meilleurs. Je crois que en ce qui concerne Yves Klein, il tient sur ses deux pieds tout seul. Il a écrit à peu près 1200 pages. Donc si on veut chercher des extraits importants sur ce qu'il avait pu faire ou voulu faire ou fait, il est simple de taper dans les textes d'Yves Klein. C'est ce qu'a compris très très bien Frédéric, et je crois que vous allez avoir une petite explication de ce qu'est le livre. Et j'ose espérer que vous aurez envie de le lire et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. On a eu la chance aussi, si on met Yves Klein avec Rimbaud, c'est d'avoir un fan que moi j'avais rencontré il y a quelque temps, qui est Patti Smith. Patti Smith, la fameuse rockeuse, a déclaré dans la presse plusieurs fois que son artiste visuel préféré était Yves Klein. Et puis, comme je savais qu'elle avait depuis 47 ans souhaité l'anniversaire de Rimbaud, puisque c'est une fan de Rimbaud, donc je lui ai demandé, Frédéric est allé la voir suffisamment bien pour qu'il la séduise et pour qu'elle ait envie d'écrire la préface, qui malheureusement est devenue une postface parce que son texte est arrivé trop tard. Et que le maquettisme a dit, j'ai déjà changé la mise en page plusieurs fois, si je change encore, ça va tout décaler, donc on va le mettre en postface. Il en est pas moins vrai que c'est un texte formidable, et là aussi, je crois que c'est quelque chose poétique, et je pense que le texte de Frédéric est aussi un texte littéraire, et c'est un texte qui a énormément de poésie, et quelque chose qui est, je crois que, les créateurs, les artistes visuels créateurs ne peuvent pas être expliqués par des philosophes ou par des psys ou par des quoi que ce soit. Je crois que les poètes ont le dernier mot. Je préfère Apollinaire parlant de Picasso plutôt que d'avoir des gens qui vont vous parler de l'histoire de l'art. Là, c'est une histoire de sensibilité et je crois que le texte de Frédéric, c'est ça, c'est quelque chose justement de très sensible. Donc je passe la parole à Frédéric.
Merci Daniel, ce livre doit tant à votre énergie, vous l'avez porté du début à ces derniers jours, sans compter Donc ceux que nous connaissons aujourd'hui, qui accompagnent la promotion dans plusieurs librairies de cet ouvrage, vous l'avez souligné, j'ai tâché de ne pas m'encombrer de cette littérature critique abondante qui recouvre l'œuvre d'Yves Klein de références tout à fait louable et légitime et noble, mais qui parfois l'écrase sous des concepts qui nuisent à sa clarté, à sa légèreté et à sa poésie. Et donc moi je suis intervenu dans ce projet avec la culture qui me nourrissait, donc culture littéraire, poétique, philosophique, naturellement. Et ce qui m'a frappé dans cette vie, c'est la hardiesse d'Yves Klein. L'œuvre que l'on connaît se concentre sur un tout petit nombre d'années. Hein. C'est sa première exposition, 54-55, La mort le fauche en 62. Il meurt jeune homme. Et ce qui a été pour lui un principe de vie, c'était donc l'intrépidité, la hardiesse et ce qu'il appelait le pourquoi pas. Et il écrivait, puisque je me suis plongé dans sa littérature, il suffit de le lire, de le voir, de l'écouter, hein, pour comprendre l'esprit qui animait son travail. Et il écrivait, dans la vie d'un homme, le pourquoi pas, c'est ce qui décide de tout. C'est le signal que l'archétype d'un nouvel état des choses est prêt. Donc son intrépidité va le lancer dans une aventure qui va agrandir le monde, qui va agrandir son œuvre. Et j'ai pensé à ce que disait Rimbaud dans Une saison en enfer, il faut être absolument moderne. Ce qu'il a été, visionnaire, il le fut aussi. Il a inventé des formes tout à fait inédites d'expression, de poésie. La mort, donc, l'a fauché bien jeune, qui sait ce qu'il aurait fait après. À chaque œuvre qu'il présentait au public, tout le monde avait la conviction qu'il ne pouvait pas aller au-delà, qu'il avait atteint un plafond de verre, et à chaque fois, il le pulvérisait, à la stupéfaction de tous. Et Rimbaud, donc, écrivait « Les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles ». Alors Yves Klein conçoit l'art, conçoit son art comme le grand stimulant de l'existence, le grand stimulant de la vie. C'est-à-dire qu'il réalise des œuvres qui sont destinées à agir sur celui qui veut bien lui accorder une attention, qui veut bien y être attentif, car effectivement le travail d'Yves Klein réclame une grande qualité d'attention, une grande qualité d'écoute, la meilleure disposition dont on puisse être capable. Yves Klein est l'homme, je dirais, d'une idée essentielle, c'est qu'il n'y a pas de monde rival du nôtre. Il n'y a pas d'arrière-monde, et c'est ce qui m'avait frappé dans son œuvre et dans ses écrits. C'est donc il est catholique, je dirais plus chrétien que catholique, même s'il vouait un culte à Sainte Rita, mais sa spiritualité plonge davantage dans un christianisme primitif. Et on ne trouve pas dans ses écrits, ni traduit dans ses œuvres, l'idée d'un paradis. Hein, c'est le mot Éden qui traverse sa pensée. Et c'est pour cette raison donc que les trois mots qui organisent mon texte sont le feu. Hein, c'est l'élément conducteur. C'est le projet que m'a soumis Daniel dès notre première rencontre, le feu, et envisager Klein sous les traits d'un Prométhée. Et la référence rimbaldienne, elle est arrivée au fil de l'écriture, en fait, car j'ai identifié une parenté spirituelle entre Klein et Rimbaud. Tous deux sont dans la nostalgie d'une unité perdue, d'un âge d'or. Rimbaud a été éduqué dans la foi catholique, foi à laquelle il a tordu le cou très rapidement. Il parlait de son âme livrée aux répugnances, hein, de la foi catholique. Mais pour autant, ça n'est pas du tout un athée. Hein. C'est quelqu'un qui est habité d'un grand souffle, d'une grande quête du mystère. Donc, les trois mots traversant ce livre sont le feu, la chair et l'Éden. Et si Patti Smith est intervenue dans ce projet, c'est parce que Daniel et moi, nous tenions à ce que son texte agisse comme une signature auprès du public, déjà un aperçu de ce que pouvait être donc ce livre, cette nouvelle optique de l'œuvre. Patti Smith, j'en suis certain, donc doit vous surprendre, intervenant dans ce projet. Klein, dans l'esprit commun, est plutôt associé à un artiste abstrait, mot qu'il a toujours récusé et qui ne lui convient absolument pas, mais c'est ainsi qu'on le perçoit pour autant, et un artiste éthéré, donc épris d'immatériel, et d'un autre côté, nous avons Patti Smith, qui est au contraire hyper incarné, hein, et comme le rappelait Daniel, elle fait d'Yves Klein son artiste visuel préféré, c'est pour une bonne raison, c'est qu'elle est également sensible à cette qualité de la chair dans son travail. L'art d'Yves Klein ouvre un accès, l'accès à un monde où repose un mystère dormant, un mystère à l'état vivant, à l'état latent, à l'état brut. Le merveilleux donc, qui inspire son travail doit conduire à l'origine et doit agir sur celui qui veut bien donc, être sensible à cette œuvre. Et Yves Klein donc invitait son spectateur dont il faisait un viveur, hein, il utilisait ce néologisme, donc il l'invitait à s'engager dans la voie de l'émerveillement. Alors, cette idée de la merveille, du réel merveilleux, du réalisme merveilleux m'a tout de suite frappé, puisque je suis hispaniste, comme mes collègues le savent fort bien. Le réalisme merveilleux, c'est une pensée qui nous est familière, qui a été portée par l'écrivain Alejo Carpentier. Ce que j'ai voulu dans ce livre, en faisant du réel merveilleux donc un fil conducteur, c'était de montrer que l'œuvre d'Yves Klein travaille à une réalité augmentée, c'est-à-dire un monde augmenté en nous de sa réverbération et un monde dans lequel soi-même on se réverbère. C'est une dimension nouvelle. La réalité augmentée, c'est le réalisme merveilleux, c'est ce climat du réalisme merveilleux. C'est-à-dire que le désir du viveur de cette œuvre réveille l'étrangeté du monde, son insolite, et donc c'est un étonnement que ce merveilleux pouvoir que l'on a et qui se révèle à nous, hein, de pouvoir s'épanouir et de se sentir renouvelé au contact de cette œuvre, qui est une grande fraîcheur et d'une très grande légèreté, donc il ne faut surtout pas l'accabler de théories, de systèmes philosophiques qui peuvent coïncider ponctuellement avec certaines idées que développait Yves Klein, certains concepts, mais en aucune mesure cette œuvre ne peut répondre à un système, ne peut en être l'expression, la traduction. Donc, dans ce nouveau monde qui affleure dans l'œuvre d'Yves Klein, on n'a pas accès à un monde, je dirais, surnaturel. D'ailleurs, l'ésotérisme a toujours, très rapidement, fait horreur à Yves Klein, même si, jeune homme, il a eu cette curiosité. Il s'est tout de suite détourné, hein, de tout ce qui pouvait ressortir à la magie. Hein, et au contraire, lui, ce qu'il souhaite à travers son œuvre, c'est traduire un monde qui est poussé dans ses forces, hein, qui est accru, qui s'ouvre et qui se révèle grâce à l'action que l'on exerce sur lui. Le réel merveilleux, c'est une affaire de perception. C'est pour cette raison qu'il faut être attentif à l'œuvre d'Yves Klein. Tout le monde n'est pas en capacité de prêter cette attention à une œuvre, et tous les artistes ne sont pas non plus capables de traduire dans une œuvre cette réalité du merveilleux. Yves Klein, oui, il l'était. Yves Klein est sensible au fait que l'histoire faisant, l'histoire cheminant, l'homme a perdu ce que lui appelle sa vision color, hein, la vision de l'unité perdue, et son souhait sera conduire l'homme vers un Éden. Cet Éden donc n'est pas un arrière-monde, c'est un monde latent qui est enroulé au monde visible, au monde donc tangible. Et on peut dire que le réalisme merveilleux d'Yves Klein, c'est de cette façon le temps et l'espace retrouvés, hein, pour reprendre donc un thème proustien. La postérité à laquelle peut prétendre Yves Klein, elle cristallise surtout dans l'immatériel. Hein. Ça a vraiment été son intuition, le point où a cristallisé toute sa pensée et tout son travail, l'immatériel, c'est-à-dire l'inépuisable réserve de la vie. Rimbaud, dans les Illumination parle d'un élan insensé et infini aux splendeurs invisibles. C'est ça Yves Klein, hein. Un élan insensé et infini aux splendeurs invisibles. Et c'est pour cette raison que Daniel et moi, on tenait à ce que la couverture de ce livre porte donc cette photo assez connue, hein, du saut dans le vide d'Yves Klein, réalisé à Fontenay-aux-Roses. Donc Yves Klein s'élance et embrasse l'espace, l'air, et il fend cette trouée. Et lorsque j'ai montré cette couverture à Patti Smith, avec le titre auquel nous avions pensé, c'est-à-dire embrasure, bien sûr c'est un mot qui est absolument intraduisible en anglais. J'ai joué dans ce titre de beaucoup des acceptions de ce terme. Hein. L'embrasure, c'est initialement une ouverture que l'on aménage dans une muraille et par où on fait passer le fût du canon pour ouvrir le feu. Donc, puisque le feu était l'élément conducteur, le mot me paraissait dans son étymologie intéressant. L'embrasure, aujourd'hui, c'est un espace indistinct, un espace indéfini entre un dedans et un dehors, un espace de contact. Et l'œuvre d'Yves Klein, c'est un espace de contact aussi. C'est un espace d'embrassement entre deux mondes, entre un monde latent et un monde tangible. Je vous donnerai quelques exemples pour vous montrer à quel point tout ceci est concret, est sensible et fonctionne. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit. Et lorsque j'ai montré donc cette couverture à Patti Smith, bien sûr, le mot embrasure, elle ne le connaissait pas, mais ce qu'elle a reconnu dans ce mot, c'est le verbe « to embrace ». Et c'était une intuition fantastique, hein, puisque c'est exactement comme ça que Daniel et moi, on envisageait ce livre, hein, et l'œuvre d'Yves Klein, c'est-à-dire une œuvre qui embrasse et qui embrase. Donc, elle a composé un texte qui reprend ses grandes idées, le feu, la chair, l'Éden, un texte tout à fait surréaliste dans sa patte. Elle invente donc des combats entre Yves Klein, un combat titanesque entre Yves Klein et la victoire de Samothrace. Je pourrais vous lire peut-être un extrait,
oui, bien sûr,
puisqu'on aura le temps, je pense, hein, de sa préface, qui est un texte magnifique qui nous a beaucoup plu, beaucoup étonné, Daniel et moi, parce qu'elle elle s'y est beaucoup investie. Ce n'est pas un texte de commande, il lui arrive, hein, tout le monde connaît sa passion pour Rimbaud, elle a écrit plusieurs préfaces aux États-Unis, hein, d'anthologie de la poésie et de la prose de Rimbaud, et elle a l'expérience de ses préfaces. Celle-ci est un texte très différent, hein, qu'elle a écrit avec toute son âme et tout son cœur. Hein. Elle s'y est vraiment jetée de toute son âme, c'est un texte vraiment magnifique. Yves Klein à l'esprit occupé comme Rimbaud, et c'était une dimension qui m'était assez plaisante, il est préoccupé de deux mythes, de deux mythologies, la mythologie de l'âge d'or et celle de Prométhée. Donc on a avec l'âge d'or l'idée d'un monde édénique, frais, neuf, où la sève est encore vive. Et Prométhée, au contraire, c'est le monde de la technologie, l'éveil des civilisations. Hein. Et donc, Klein envisage la science, arrivée au fait de son expression, comme rejoignant la poésie. Et il a eu plusieurs intuitions, et je pense que le temps va lui donner raison. Je pense que ce dont la science sera capable à l'avenir donnera raison aux intuitions artistiques et poétiques d'Yves Klein, notamment sur l'immatériel. Donc, pour animer le monde, il faut ranimer le mythe. Hein. Et c'est comme ça que Yves Klein envisage son travail. Retrouver l'âge d'or du monde à son enfance. Retrouver ce que Rimbaud appelait le pur ruissellement de la vie. Peut-être pour vous donner une idée plus précise encore et performante de ce dont Yves Klein était capable, je vais vous dire quelques mots du rituel qu'il a inventé à la toute fin de sa carrière, hein, un rituel où l'art devient la grande tentation qui entraîne à vivre, le grand stimulant qui pousse à vivre. C'est un rituel qui est destiné à manifester à celui qui s'y prête une région du monde, un pan du monde, ce pan du monde vient à celui qui s'y prête. C'est comme si au premier matin, on revenait au monde, hein, comme écrit René Char, être le premier venu. En quoi cela consiste ? Ça consiste en une illumination intérieure. Yves Klein invente un rituel du don et du contre-don qui peut ressembler à ce qui était pratiqué dans les sociétés amérindiennes à travers le rite du potlatch. Le potlatch, donc, c'est une lutte de générosité entre deux chefs rivaux. Hein, et la victoire et la gloire revient à celui qui aura fait le don le plus exorbitant. Et le don atteint son degré le plus haut lorsqu'on dilapide une richesse absolue. Hein. Et donc Yves Klein a vendu plusieurs donc zones de sensibilité picturale immatérielle, c'était l'appellation qu'il donnait à ce rituel, à ces espaces, à ces pans du monde. Plusieurs personnes soumises. Je parlerai des trois derniers, trois sessions qui ont lieu en janvier et février 62. Elles se déroulaient sur les escaliers du Pont au Double à Paris, en contrebas de Notre-Dame. L'espace était choisi à dessein. Hein. On avait donc la Seine qui coulait. Devant soi, les façades des immeubles, le grand espace parisien, le ciel immense, et bien sûr Notre-Dame et le poids des siècles, l'éternité du temps. Et donc trois personnes vont se soumettre à ce rituel. Un poète qui était un ami d'enfance, Claude Pascal, un écrivain qui avait déjà découvert l'œuvre d'Yves Klein en Italie. Il avait donc écrit une critique dans le Corriere della Sera, c'est l'écrivain Dino Buzzati. Et le troisième est un scénariste hollywoodien, Michael Blankfort. Voilà en quoi cela consistait. Lorsque le rendez-vous était pris, la valeur d'échange était l'or. Hein, il fallait absolument que ce soit quelque chose qui ne soit pas corrompu par la société monétaire. Hein. L'or, recelant en soi une valeur pure et absolue. L'or se présentait sous la forme de feuilles ou bien de lingots. La vente la plus exorbitante, à laquelle a consenti Michael Blankfort. Il s'agit de 16 lingots d'or. 16 lingots d'or de 10 grammes chacun. Et une partie des lingots revenait à Klein pour financer le reste de son travail. Deux lingots allaient à celui qui authentifiait la session. Et 7 étaient abandonnés au fleuve. C'est un geste contre nature hein, que d'abandonner à la nature cet or donc d'une valeur donc absolue. Et ce qui est intéressant, c'est que Michael Blankfort a raconté sur papier ce qu'il avait éprouvé à ce moment-là. Et ce qu'il décrit montre bien à quel point le rituel inventé par Klein était performant, était opérant. Ce que Michael Blankfort a éprouvé, c'est une véritable extase. C'est un transport qui peut ressembler à ce que les mystiques peuvent éprouver, c'est-à-dire un moment de sortie de soi, on s'absente de soi, la sensation que notre corps est enveloppé dans sa chair, d'une chair plus grande encore. Hein. Donc le corps s'absente de lui-même, il y retournera, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, changé en tout cas. Et dans ce transport paradoxal de l'extase, eh bien, Michael Blankfort embrasse l'espace et deux chairs se ressoudent à ce moment-là. sa propre chair et la chair du monde. Et il en a été extrêmement ému, extrêmement touché. J'emploie ce mot à dessein. C'est une façon pour celui donc qui se prête à ces rituels, c'est ce que voulait Klein, c'est l'occasion de requalifier le monde, de se l'approprier et de se fondre en lui. Et d'en être changé. À ce moment-là, Klein transfère à celui qui sacrifie à ce rituel une qualité de voyant, hein, une qualité de voyant et de voleur. Et dans ce moment-là, c'est un instant pur qui voit le jour, un instant éternel, un maintenant idéal, où le vrai moi s'avive. C'est un instant sans début ni fin, sans origine ni destin, un moment où on fait corps avec le monde, un moment fugace. Je peux peut-être lire un texte qui ouvre ce chapitre, qui est le troisième, mais il était peut-être plus simple de commencer la présentation de l'œuvre par cette expérience de l'immatériel. 10 février 62, Paris, escalier du pont au double, quai des Lits de la Cité. Le moment est venu. Pourtant encore, quelque chose me retient. Ma main hésite, refermée sur l'or que je vais jeter au creux du fleuve. Mais avant cela, encore un instant. Dressé debout devant le monde, je respire, je m'interroge. Car sous l'air, au revers des façades, derrière les eaux, quelque chose est là que je ressens. Ma vie retournée sur elle et le monde avec. Les lingots me semblent plus lourds, comme si tout bas ils résistaient aux gestes que je soupèse. Je réalise maintenant qu'ils ont pris une valeur inestimable. À qui va l'offrande ? Là va le mystère. On est soi-même l'instrument de sa grâce, d'un geste où l'on se défait de soi. Une question me hante, comme cet or, bientôt, les remous du fleuve. Ai-je toute la vie ? Je veux un regain, je veux toute la vie. Mais fondre ou fond ce nuage sans guide, ô favorisé de ce qui est frais. Le moment est venu. D'un geste, voilà les lingots projetés vers le fleuve. Je suis leur course du regard, je suis ce regard, je suis. Un moment où l'être s'incarne au sens le plus intense du terme. Yves Klein est un artiste qui était capable d'enthousiasme, et c'est ce qu'il réclame de celui qui est en face de chacune de ses œuvres. Qu'il s'agisse d'un monochrome, qu'il s'agisse de l'auditeur de sa symphonie, dont on pourrait peut-être dire quelques mots, un enthousiasme face aux peintures qu'il réalise avec l'élément feu, l'enthousiasme dont on est capable lorsque... on a tous connu ça, je suppose, des moments où tout d'un coup, face à un paysage ou face à quelqu'un, on a l'impression que l'espace, que l'air devient plus dense. Hein, et donc, par son œuvre, Yves Klein... donc reproduit et donc anime ces moments donc uniques. Il a eu une révélation, une illumination lorsqu'il était adolescent. Il était allongé sur la plage et il contemple le ciel bleu. Et il a eu la révélation de ce que ce ciel était son œuvre. Son esprit se fondait dans ce ciel rayonnait en lui, hein, et leurs deux chairs s'embrassaient. Hein, ça a été le moment d'un apax, d'un moment unique qui va décider de tout le cours de sa vie. Hein, et toujours ce souvenir le poursuivra, et chacune de ses œuvres sera animée de ce souvenir intense. Vous voulez dire peut-être un mot à ce sujet ou...
Non, je pense que, en écoutant Frédéric et connaissant l'œuvre pour vivre avec, je dois dire qu'il est difficile d'appréhender l'éblouissement qu'il a pu connaître le jour où il a découvert une idée simple qui était « et si l'art visuel, en fait, c'était la couleur ?» Parce que sa mère, Marie Raymond, était un peintre abstrait. Vous avez ici, au Musée des Beaux-Arts, une exposition sur les peintres abstraits de Montparnasse, dans laquelle elle aurait très bien pu figurer, puisqu'elle était un des peintres majeurs de l'époque. et tout le monde peignait abstrait. Et Yves disait, mais en fait, cette peinture abstraite, c'est du dessin. Or, pour moi, la peinture, c'est de la couleur. Et la grande différence, ce qui a fait la notoriété et qui a fait la révolution dans le petit Landerneau de la peinture, c'était justement que tout d'un coup, il soit passé du dessin à la couleur. Et ça n'a pas été très simple, si vous voulez, parce que tout le monde comprenait l'art abstrait, ils avaient accepté ça après le surréalisme, il y avait l'art abstrait, ça semblait logique. Et Yves était en révolution contre ça. Et Yves était assez mal placé, puisqu'il était le fils d'une des personnes. Moi, je trouve toujours que c'est assez shakespearien comme destin, parce qu'à partir du moment où le fils est arrivé, toute cette époque de peintre abstrait a été balayée. C'est-à-dire qu'on ne s'est plus du tout intéressé à toute cette équipe d'individus qui, au demeurant, étaient des artistes tout à fait légitimes. Et l'exposition que vous avez au Musée des Beaux-Arts est tout à fait légitime. Mais évidemment, quand on voit à côté de ça, à la même époque, une œuvre d'Yves Klein, ça n'a plus rien à voir. Ce sont deux mondes différents. L'un, c'est la modernité, l'autre, c'est la préhistoire. Donc, c'est quelque chose de tout à fait bizarre. Et ensuite, ce que je pense être, moi, l'œuvre la plus importante d'Yves Klein, comme en a parlé Frédéric au début, c'est ce qu'il a fait à la fin, c'est l'immatériel. Le grand apport d'Yves Klein, c'est justement de signifier cette espèce de transcendance en art. C'est-à-dire que l'art, c'est pas de la déco, l'art, c'est pas une image, l'art, c'est pas... L'art, c'est une transcendance. C'est où il se passe quelque chose au-delà du tableau, et auquel cas, ça existe, ou alors c'est simplement un divertissement. Or, on a un peu tendance aujourd'hui... J'ai quelque chose qui me plaît beaucoup, qui a été dit en 1962 par un monsieur dont je vais vous dire le nom tout de suite après, qui disait, je suis très inquiet, il était à Pasadena, il allait faire une exposition là, au musée de Pasadena, je suis très inquiet avec l'évolution actuelle de l'art. L'art n'existe qu'à partir du moment où il va contre ce qui se passe et il est en état de résistance. Et cette personne qui disait ça, il disait « Je suis très, très inquiet par ce qui se passe aujourd'hui ». C'était Marcel Duchamp en 1962. Je pense que Marcel Duchamp avait déjà montré qu'il était un visionnaire en 1917. En 62, il continuait. Et je crois qu'il avait pressenti les sacs de Vuitton et Yayoi Kusama, et qu'on utilise, la pauvre malheureuse, à d'autres effets, et Murakami, qui est un designer, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas de sac. Et donc, je pense que l'art, le grand art dont parlait Yves, c'est effectivement l'immatériel, la sensibilité. Et il a apporté quelque chose aussi, c'est la spiritualité. Il y a chez Yves quelque chose... Alors, Frédéric en a parlé, il a raison, c'était un catholique, mais il parlait directement, sans intermédiaire, au patron, c'est-à-dire qu'il se sentait tout à fait en phase et il n'y avait pas de problème. Peut-être avait-il une interlocutrice qui était Santa Rita di Cascia, où il est allé en pèlerinage plusieurs fois. Vous savez, Santa Rita, c'est la sainte des causes impossibles. C'était, évidemment, Nice est placée sous la protection de Sainte Rita, et sa tante, la sœur de sa mère, qui s'en est pas mal occupée, lui disait toujours, je prie Sainte Rita, et il y a une chapelle Sainte Rita, il y en a très peu en France, mais il y a une chapelle Sainte Rita à Nice. Donc, ils sont allés trois fois en pèlerinage, et il a apporté là-bas... deux ex-voto, il a envoyé d'autres choses aussi, mais il y a chez lui cette spiritualité qui est véritablement très ancrée dans ça, et c'est quelque chose là encore, entre la spiritualité et cette croyance qu'il y a quelque chose d'autre qui n'est pas forcément matérialisé, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous voulez, il est de la même époque de deux autres créateurs, un c'est Andy Warhol, et l'autre qui était
vraiment ébloui par lui, c'était Manzoni. Et quand Yves Klein fait l'immatériel, vous avez Warhol qui fait le signe du dollar, donc ce sont deux cultures un peu différentes, et Manzoni fait la merde d'artiste en même temps. Donc si vous voulez, vous avez le choix entre Warhol, le dollar sign, qui du reste a très bien réussi, parce que je pense que le dollar règne pas mal, la merde d'artiste de Manzoni, je ne sais pas s'il règne autant, et puis vous avez l'immatériel. Et ce que m'avait dit, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, ce collectionneur américain qui avait partagé donc avec lui ce moment, il m'avait dit, tu sais, j'ai eu... C'était un collectionneur à l'américaine, donc il avait beaucoup d'œuvres, il en avait donné au musée. Et lors d'une exposition de sa collection au musée de Los Angeles, il m'avait dit, tu sais, il y a trois œuvres qui, véritablement, pour moi, m'ont accompagné toute ma vie. Une des trois... c'est l'immatériel de Yves. Partout où je vais, je la sens en moi. Le moment que j'ai passé avec lui, lorsque on a brûlé le reçu, parce que pour que l'immatériel existe, je ne sais pas si vous êtes au courant à peu près comment ça se passait, mais il signait un reçu pour l'or qu'il avait reçu, et pour que l'immatériel existe, il fallait bien qu'on brûle le reçu, parce que le reçu, c'était quand même quelque chose de matériel. Donc, il le brûlait, et à ce moment-là, Yves, l'artiste, celui qui avait été l'artisan, rejetait dans la nature une partie, bien évidemment, tout partait en fumée, et il me dit, tu sais, on m'a dit que lorsque je faisais ça, les cloches de Notre-Dame ont sonné. Je me souviens de rien. J'étais en extase, et je crois que chaque fois que je pensais à ce moment, c'était quelque chose qui était très très fort et très profond. Je crois que c'est la définition de l'œuvre d'art. Je crois que l'œuvre d'art, où elle est profonde et prenante, si vous avez tout d'un coup, quand vous voyez un tableau classique, comme ça a pu m'arriver un jour au Prado, je regarde un tableau de Greco que je n'aimais pas particulièrement, mais il se trouve que ce jour, je ne sais pas pourquoi ni comment, je me suis retrouvé en regardant un tableau et j'avais la chair de poule. Je pense que ça, c'est vraisemblablement parce qu'il se passe quelque chose. On a rarement la chair de poule avec un poster ou avec une bande dessinée, alors qu'il y a des gens formidables dans les posters et dans les bandes dessinées. Mais l'art, c'est quelque chose qui vient de l'humain pour l'humain. Et je crois que ça serait formidable si dans l'éducation nationale, on donnait une petite partie à l'art qui permettrait aux gens peut-être d'appréhender la vie différemment. Je crois que l'art, ça aide à vivre, en tout cas, ça change les perspectives. Et je crois qu'il est difficile pour Frédéric d'expliquer le texte qu'il a fait, qui est un texte brillant et un texte sensible, parce qu'en l'écoutant, j'ai le sentiment que c'est très compliqué, alors que pas du tout. Alors que ce qu'il écrit est quelque chose de très très simple. Et c'est justement quelque chose qui vous emmène dans une espèce de cheminement poétique. Et peut-être qu'il faut laisser la poésie au poète et la lire, parce que quand on l'exprime, peut-être que c'est différent. Je crois que l'œuvre d'art, il faut y être confronté aussi. Et il est dommage que, par exemple, dans les musées, il n'y ait pas de lieu un peu de relax, et pas de recueillement, mais si vous voulez, de vous arrêter un petit peu. On est debout, on passe de l'un à l'autre. Et puis aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est les images qui bougent. Les images qui bougent, ça, c'est fantastique. Tout le monde a été élevé grâce à la télévision couleur. Moi, j'étais encore au poste à lampe, si vous voulez. Donc, c'est une petite différence de génération ou de deux générations. Et je vous affirme que lorsqu'il y a des images qui bougent en couleur, rien ne résiste à ça. À la dernière exposition qu'il y avait au Centre Pompidou en 2006-2007, la commissaire du peuple, parce que vous n'ignorez pas que les gens qui organisent des expositions sont appelés commissaires d'exposition. Il n'y a qu'en France qu'on appelle les gens qui organisent des expositions des commissaires. C'est commissaire au stade.
à la définition stalinienne du commissaire, si vous voulez. Donc, on fait, le commissaire avait dit, là, il y a un tableau, et à côté du tableau, je vais mettre une télévision où on voit Yves Klein faisant le tableau. Mais j'ai dit, mais quelle bonne idée! Surtout, ne pas laisser l'œuvre d'art parler par elle-même. Il faut absolument expliquer. Grâce à la télévision, on va savoir ce que c'est que l'œuvre d'art. Donc, je pense qu'on est dans une société un peu maboule, quand même. Je crois qu'il faut prendre un peu de calme et regarder les choses différemment et lire le texte de Frédéric, aller voir les tableaux et essayer de s'enthousiasmer. Je crois que c'est la définition de l'art. L'art, c'est l'enthousiasme. C'est une définition que donnait Yves. Il disait « Malheur à celui qui se moque des enthousiastes ». Évidemment, il y a toujours des allumés qui viennent, qui sont enthousiasmés. Il y a des Napoléons partout. Yves Klein, c'était un peu un Napoléon. Il y croyait dur comme fer. On ne peut pas... Rendez-vous compte, en 1950, il fait des monochromes. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit des copains de Montparnasse quand ils voyaient Yves Klein faisant des monochromes. C'était la rigolade. Il lui tapait dans le dos, il disait « Alors Klein, toujours bleu hein ?» C'était pas facile à vivre, sûrement. Et j'ai pour témoin une personne qui était tailleur et qui était collectionneur et qui avait bien connu Klein. Il me disait « Tu sais, non, c'est pas logique, il a trop souffert. Non, c'est pas normal, il a vraiment souffert. » Alors je lui dis, mais pourquoi il a souffert? Il me dit, tu sais, il venait me voir. D'abord, évidemment, il n'avait pas d'argent, parce que sachez bien que quand même, les monochromes, les gens ne se battaient pas pour les acheter en 1950. Hein. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tout d'un coup, on a l'impression que c'est quelque chose d'absolument indispensable à un certain niveau de fortune. Bon. Ça, c'est autre chose. Je ne pense pas qu'on ait besoin de posséder l'art pour s'enthousiasmer. Je crois qu'on peut très facilement aller au musée et s'enthousiasmer et y aller et y retourner. Je crois que vous avez ici ce que fait Ashok qui est là et qui ce soir va nous balader dans son centre culturel Café Magret ici. Je trouve que toutes ces actions qui sont faites sont formidables et indispensables. Je crois que si dans ma ville natale, Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime, à la place de l'Almanach des Postes, j'avais pu aller voir une exposition, ça aurait peut-être été encore mieux. Il se trouve qu'on n'était pas très très bien servi il y a quelques années. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Mais je peux vous affirmer que peut-être c'était une exception, mais aujourd'hui, nous étions trois hein, au musée des Beaux-Arts pour aller voir l'exposition. Donc... Je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire. Et comme je disais avant, si on pouvait, grâce à l'éducation et aux bouquins et aux expositions, donner aux gens la possibilité de s'émerveiller, voilà, j'ai peut-être été un peu long, vas-y.
Continue. On pourrait donner un autre exemple de l'immatérialisation que réalisait Yves Klein, la musique. Étonnant, comment est-ce que l'on peut immatérialiser la musique? Lui l'a fait, et ça marche. Je suis musicien, donc sa symphonie m'a beaucoup intéressé, j'y ai travaillé. Et il a composé une symphonie tout à fait inédite, tout à fait étonnante, jamais entendue, qui se divise en deux parties. Une partie correspondant à une note unique, ou un accord plein et qui résonne longtemps, de 5, 7 minutes jusqu'à 20 minutes, hein, suivi d'un silence absolu. Le son s'interrompt et cède au silence. Pendant la première partie, l'auditeur est plongé dans le corps du son qui résonne, encore une fois, Le temps aidant, on finit par faire corps avec ce son. C'est quelque chose qui est physique. Et lorsque le son est retiré en quelque sorte, comme on viderait une pièce, comme si on la rendait vide soudainement, il y a un moment de vertige, un moment d'hésitation. Et qu'est-ce qui se produit? D'une part, renvoyé à sa propre solitude, puisqu'on perd ce compagnon du son, on se met soi-même à réverbérer dans le son et à le remplir de ce que l'on est, des pensées flottantes que l'on avait à l'écoute de ce son. Et surtout, et c'est là que la musique devient immatérielle, c'est que Yves Klein avait donc approché un compositeur, Louis Sager, pour réfléchir à l'accord ou à la note qui pourrait être choisie pour cette première partie de la symphonie. Et c'est la note Ré qui a été choisie, la note Ré ou bien l'accord de Ré. Prenons la note Ré. Eh bien, lorsque le son s'interrompt, que fait l'oreille ? Elle reproduit virtuellement les harmoniques de Ré. C'est-à-dire que vous allez entendre réellement, c'est votre cerveau qui le recompose, le fa dièse, le la et le do septième, les harmoniques de Ré. Et à ce moment-là, dans ce silence, résonne une musique qui est virtuelle, mais qui est pourtant très sensible, puisque vous l'entendez. Et voilà ce dont Yves Klein était capable. Il fallait y penser, il l'a fait.
Alors, je le découvre, hein. On pourrait faire un numéro de bêtiste, mais véritablement, je découvre que c'était fa, la et machin, parce que j'ai jamais... Par contre, je l'ai entendu plusieurs fois. Des fois très très bien, des fois beaucoup moins bien, mais ça a l'air d'une galéjade, entre nous soit dit. Alors, il y a une trentaine de musiciens et une trentaine de choristes. Et il est évident que 20 minutes, c'est la bonne dose... Parce que sinon, vous n'avez pas, vous rentrez pas. Il faut que ça fasse un peu mal, parce que si ça fait pas mal, ça peut pas faire de bien. Donc, vous avez 20 minutes de son. Et ce son, alors qu'il n'y a pas, le son est flat, hein, c'est pas, est plat. C'est pas des il n'y a pas d'onde. Hein. C'est vraiment ça, à tout berzingue, plein pot, le chef d'orchestre est là, les choristes, à tout va. Et tout d'un coup, au bout de 20 minutes, ça s'arrête. Ça s'arrête et tout est figé. C'est-à-dire que les musiciens restent comme ça, les choristes, pas la bouche ouverte quand même, mais figés également. Et là, comme vous avez cette masse de son qui vous a traversé le corps, vous mettez un certain temps à l'assimiler. 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Et là... Vous êtes dans un autre espace où tout d'un coup, tout a de l'importance. La déglutition, tout d'un coup, résonne. Vous avez l'impression que c'est tiré de la chasse d'eau. Vous voyez, vous êtes hop, comme ça. C'est... Mais la moindre personne, là, alors évidemment, personne ne s'agite sur les chaises. Parce que le moindre grain, et tout d'un coup, vous rentrez dans le silence, et vous découvrez un monde du silence qui est habité. Parce que quand Yves Klein fait l'exposition du vide, ça n'est pas le rien. Le vide existe. Et la définition de l'immatériel ou du vide, elle est simple à comprendre. Vous allez visiter un appartement, et on vous montre un appartement, il est vide, il n'y a rien. Et puis, tout d'un coup, cet appartement vide et rien vous semble comme ça. Et puis vous allez en avoir un autre, deux étages en dessous, le même. Et tout d'un coup, celui-là vous semble très accueillant et formidable. Ce sont exactement les mêmes, ils sont identiques. Le seul problème, l'un a été habité et nourri par des vibrations de gens qui vraisemblablement... l'ont rempli d'une espèce de vibration positive, tant qu'à l'autre, il n'existe pas. Et vous vous sentez bien dans un endroit et mal dans l'autre. Je suis sûr que ça vous est arrivé, ça nous est arrivé à tous. Or, ça fait partie de l'œuvre d'Yves Klein. L'œuvre d'Yves Klein, c'est sensibiliser des choses comme ça de la vie qui rendent la vie différente. Et je crois que c'est ce que les artistes et les poètes sont capables de faire, nous rendre la vie différente.